Chapitre 18. Grand Hôtel. Le Grand Hôtel Ganymède, connu dans tout le système solaire bien évidemment sous le nom d'Hôtel Granymède, n'avait rien de grand et sur Terre aurait péniblement mérité une étoile et demie. Mais comme la concurrence la plus proche se trouvait à plusieurs millions de kilomètres de là, la direction ne voyait pas l'utilité de se mettre en frais. Pourtant, Poole ne se plaignait pas, bien qu'il regrettât l'absence de Daniil qui l'aurait aidé pour les problèmes techniques de la vie quotidienne et pour les communications avec les machines semi-intelligentes dont il était entouré. Il avait éprouvé un bref moment de panique lorsque la porte s'était refermée derrière le chasseur, humain, apparemment pétrifié d'admiration respectueuse pour son hôte illustre, et qui ne lui avait pas expliqué le fonctionnement des différents appareils de la chambre. Après 5 minutes de monologue infructueux face au mur, Poole avait fini par entrer en communication avec un système qui comprenait son accent et ses ordres. Il imaginait déjà les gros titres de la presse galactique. L'astronaute historique meurt de faim sur Ganymède, coincé dans sa chambre d'hôtel. Et le fait divers aurait été doublement ironique, car l'unique suite luxueuse du Granymède portait un nom sans doute inévitable. En effet, il avait éprouvé un véritable choc en découvrant un ancien hologramme de son vieux compagnon, en grand uniforme, au moment de pénétrer dans la suite, Bowman. Poole avait reconnu l'image. Son propre portrait officiel avait été réalisé en même temps, quelques jours avant le début de la mission. Il ne tarda pas à découvrir que la plupart des membres de l'équipage du Goliath, qui avaient leurs habitudes à Anubis, avaient très envie de lui faire rencontrer leurs compagnes et compagnons au cours des 20 jours que devait durer le séjour. Rapidement, il fut pris dans le réseau de relations amicales et professionnelles de la colonie et c'était désormais la Tour Afrique qui semblait un rêve lointain. Secrètement, comme de nombreux Américains, Poole nourrissait une certaine nostalgie pour ces petites bourgades où tout le monde connaît tout le monde, et cela dans le monde réel, non dans le monde virtuel du cyberespace. Anubis, qui comptait moins d'habitants que Flagstaff à son époque, n'était pas loin de ressembler à cet idéal. Les 3 principaux dômes pressurisés, de 2 kilomètres de diamètre chacun, s'élevaient sur un plateau surplombant un champ de glace qui s'étendait à perte de vue jusqu'à l'horizon. Le 2e soleil de Ganymède, connu autrefois sous le nom de Jupiter, ne fournirait jamais suffisamment de chaleur pour faire fondre les calottes polaires, ce qui expliquait pourquoi l'on avait installé Anubis dans un endroit aussi inhospitalier. Les fondations de la ville ne devaient pas s'effondrer avant au moins plusieurs siècles. À l'intérieur des dômes, on devenait facilement indifférent au monde extérieur. Lorsqu'il eut maîtrisé les mécanismes de la suite Bowman, Poole découvrit en effet qu'il disposait d'un choix limité mais impressionnant d'environnement. Il pouvait s'asseoir à l'ombre des palmiers sur une plage du Pacifique et écouter le murmure des vagues, ou s'il préférait le rugissement d'un cyclone tropical. Il pouvait survoler lentement les sommets de l'Himalaya ou les immenses canyons de Mariner Valley. Il pouvait parcourir les jardins du château de Versailles ou les rues d'une 12 de grandes villes à différentes époques de leur histoire. Même si l'hôtel Granymède n'était pas l'un des meilleurs du système solaire, il offrait des prestations infiniment supérieures à ses plus illustres prédécesseurs terrestres. Mais il était ridicule de se laisser aller à une telle nostalgie pour la Terre, alors qu'il avait traversé la moitié du système solaire afin de visiter cet étrange nouveau monde. Après s'être livré à quelques expériences, Poole en arriva à un compromis concernant ses quelques moments de loisir, compromis qui ménageait aussi bien le plaisir que l'inspiration. À son grand regret, il ne s'était jamais rendu en Égypte, en sorte qu'il était délicieux de se détendre sous le regard du Sphinx, tel qu'il était avant sa restauration controversée, et d'observer les touristes en train d'escalader avec difficulté les blocs massifs de la Grande Pyramide. L'illusion était parfaite. Jusqu'au No Man's Land où le désert rencontrait la moquette, un peu usée, de la suite Bowman. En revanche, aucun œil humain n'avait jamais contemplé ce ciel avant les 5 000 ans écoulés depuis la pose de la dernière pierre à Gizeh. Et ce n'était pas une illusion, mais la réalité complexe et changeante de Ganymède. Parce que ce monde, comme ses compagnons, avait été privé de sa rotation par la marée gravitationnelle de Jupiter, le nouveau soleil né de la planète géante se tenait immobile dans le ciel. Une face de Ganymède se trouvait perpétuellement éclairée par Lucifer, et bien que l'autre hémisphère fût souvent appelé le pays des ténèbres, cette expression était aussi incorrecte que celle qui avait cours bien avant la face sombre de la Lune. Comme cette face sombre de la Lune, le pays des ténèbres de Ganymède bénéficiait de la clarté du vieux soleil pendant la moitié de sa longue journée. Par une coïncidence plus troublante qu'utile, Ganymède mettait presque exactement une semaine, en fait 7 jours et 3 heures, pour effectuer son orbite primaire. On avait tenté de créer un calendrier particulier avec l'équivalent un jour Ganymède égale une semaine terrestre. Mais un tel chaos en était résulté que la tentative avait été abandonnée plusieurs siècles auparavant. Comme les autres habitants du système solaire, les résidents de Ganymède utilisaient le temps universel, désignant leur journée de 24 heures par des chiffres plutôt que par des noms. Comme la nouvelle atmosphère de Ganymède était encore extrêmement fine et presque dépourvue de nuages, la parade des corps célestes offrait un spectacle inépuisable. À leur hypogée, Io et Callisto apparaissaient deux fois moins grosses que la Lune vue de la Terre, mais c'était la seule chose qu'elles avaient en commun. Io était si proche de Lucifer qu'il lui fallait moins de 2 jours pour parcourir son orbite, et l'on distinguait son déplacement en quelques minutes. Callisto, 4 fois plus éloigné que Io, mettait 2 jours de Ganymède, 16 jours terrestres, pour décrire sa propre orbite. Les contrastes physiques entre ces deux mondes étaient encore plus remarquables. Callisto, gelé en profondeur, n'avait pratiquement pas été affecté par la transformation de Jupiter en mini-soleil. C'était toujours un monde désolé, de cratères glacés peu profonds, si rapprochés les uns des autres que pas un seul endroit du satellite n'avait échappé aux impacts, à l'époque où l'énorme champ de gravitation de Jupiter rivalisait avec celui de Saturne pour attirer les débris de la zone externe du système solaire. Depuis, en dehors de quelques impacts isolés, il ne s'était rien passé pendant plusieurs milliards d'années. Sur Io, en revanche, il se produisait quelque chose chaque semaine. Sur Ganymède, on disait de façon plaisante qu'avant la création de Lucifer, c'était l'enfer, mais qu'à présent, c'était l'enfer chauffé à blanc. Souvent, Poole observait aux instruments ce paysage de fournaise, avec la gueule béante de ces volcans furieux qui remodelaient sans cesse des étendues plus vastes que l'Afrique. Parfois, des fontaines incandescentes montaient en flèche à des centaines de kilomètres dans l'espace, brièvement, tels de gigantesques arbres de feu poussant sur un monde sans vie. Cratères et cheminées de volcans crachaient leurs flots de soufre fondu, puis les éléments changeants passaient par un spectre étroit de rouge, orange et jaune, variété allotropique semblable aux métamorphoses du caméléon. Avant l'âge de l'espace, personne n'aurait imaginé qu'un tel monde pût exister. Confortablement installé, Poole contemplait tout à loisir le fascinant spectacle, mais il lui semblait incroyable que des hommes aient pu prendre le risque d'atterrir sur un tel endroit où l'on craignait même d'envoyer des robots. Il s'intéressait surtout à Europe, qui à son hypogée apparaissait presque exactement de la même taille que la Lune solitaire de la Terre, tout en parcourant ses différentes phases en 4 jours seulement. Poole n'avait pas songé au symbolisme en choisissant son paysage privé, mais à présent, il lui semblait tout à fait approprié de voir Europe dans le ciel au-dessus d'une autre grande énigme, le Sphinx. Même à l'œil nu, Poole pouvait voir à quel point Europe avait changé en 1000 ans, depuis le départ de Discovery pour Jupiter. La toile d'araignée formée de bandes et de lignes étroites qui enveloppaient complètement le plus petit des 4 satellites avait disparu, sauf autour des pôles. Là, le nouveau soleil d'Europe n'était pas parvenu à faire fondre la croûte de glace 1 kilomètre d'épaisseur. Ailleurs, des océans vierges bouillonnaient dans la fine atmosphère à une température que sur Terre l'on aurait jugée agréable. C'était également une température agréable pour les créatures qui avaient émergé après la fonte du bouclier de glace qui les enfermait et les protégeait à la fois. Les satellites espions capables de distinguer des détails de quelques centimètres avait observé l'une des espèces européennes évoluer jusqu'à un stade amphibie. Bien que demeurant encore la plupart du temps sous l'eau, les Europes avaient entrepris la construction de bâtiments simples. Qu'une telle évolution se soit produite en seulement 1000 ans était proprement sidérant. Mais tout le monde savait que l'explication gisait dans le dernier et le plus grand des monolithes, la Grande Muraille, de plusieurs kilomètres de long, qui s'élevait sur le rivage de la mer de Galilée. Et tout le monde savait aussi qu'à sa façon, mystérieuse, il surveillait l'expérience qu'il avait tentée sur ce monde, comme il l'avait fait sur Terre 4 millions d'années auparavant.